Rebonjour à chacun de vous. C'est vraiment une joie, un privilège pour moi de partager la parole avec vous ce matin. Et comme annoncé dimanche dernier, aujourd'hui, on veut mettre ce dimanche sous le signe du dimanche de l'Église persécutée. Et en tant qu'Église, membre du corps de Christ, nous voulons ce matin avoir une pensée pour tous les chrétiens persécutés dans le monde à cause de leur foi. Et la parole de Dieu nous exhorte à se réjouir avec ceux qui se réjouissent et à pleurer avec ceux qui pleurent. Nous avons le privilège d'être dans un pays qui n'est pas sur la liste des pays où les chrétiens sont persécutés. C'est vraiment une grâce pour nous, un privilège pour nous. Mais cela ne veut pas dire que nous devons oublier qu'ailleurs dans le monde, ce n'est pas toujours le cas. Des frères et sœurs dans la foi, dans de nombreux pays, sont persécutés pour la simple raison d'avoir choisi de confesser le nom de Jésus. Ça peut nous paraître bizarre et drôle, mais pourtant c'est vrai. L'organisme chrétien Portes Ouvertes, dont le travail est dédié aux églises et à l'église persécutée, publie chaque année au mois de novembre une vidéo de sensibilisation à la souffrance des chrétiens persécutés partout dans le monde. D'habitude, c'est pasteur Dominique qui a le privilège de conduire ce temps. Il m'a fait le cadeau de le faire ce matin. Je ne sais pas si c'est vraiment un cadeau. Est-ce que c'est un cadeau que tu m'as fait? Moi, je l'ai pris comme un fardeau. Honnêtement, j'ai jamais été persécuté dans ma foi. J'ai jamais vécu dans un pays où les gens subissaient la persécution. Et c'est en toute humilité ce matin que je vais vous partager ce message. Mais j'ai entendu beaucoup d'histoires de persécution. Et je sais que vous en avez entendu également. Merci à mon ami pasteur et Dominique pour ce privilège. Avant d'aller plus loin dans la prédication ce matin, j'aimerais qu'on puisse ensemble visualiser cette vidéo de l'organisme Portes Ouvertes. Nous prendrons également après le temps de prier pour tous nos frères et sœurs qui souffrent dans la foi et partout dans le monde à cause de leur appartenance à Christ. Donc si la technique est prête, je vais vous demander de regarder avec moi cette vidéo.
Autour de minuit, des extrémistes Fulani sont arrivés avec des lampes torches, cherchant des gens à tuer. Mon frère a bloqué la porte pour les empêcher d'entrer. Ils lui ont tiré dessus à travers la porte.
La mine a explosé, faisant trembler le sol. Je me suis précipité. J'ai vu au sol le corps de mes deux enfants, sans vie.
Les djihadistes nous ont allongés sur le sol. Ils ont dit qu'ils allaient nous rassembler dans l'église, tout asperger d'essence et mettre le feu.
C'est là qu'ils ont tué ma femme. Elle portait notre fils de 9 mois sur le dos.
Mon mari dormait quand ils ont pénétré dans la maison. Ils l'ont abattu.
Dans la Bible, Jésus nous dit « S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront ». La persécution n'est pas une chose du passé, de l'Église primitive. C'est une situation actuelle que vivent plus de 365 millions de chrétiens à travers le monde. Et ces dernières années, la violence extrême envers les chrétiens se concentre particulièrement en Afrique subsaharienne. 16,2 millions de chrétiens sont actuellement déplacés dans cette région du monde. Nous nous sommes rendus à la rencontre du pasteur Barnabas, dans un camp de déplacés de Bénu, au Nigeria.
C'est ici que nous vivons, dans un camp de déplacés internes. Cela fait environ 4 ans maintenant, presque 5. Tous les gens que vous voyez ici, nous sommes tous chrétiens. Et nous sommes déplacés à cause des violences. Nous pensons qu'ils sont contre les chrétiens. Lorsqu'ils viennent nous attaquer, ils nous appellent Kapari. Cela veut dire des sans-religion. Pour eux, nous sommes des moins que rien. Ils ciblent directement les chrétiens.
Barnabas a perdu l'un de ses frères et sa belle-sœur lors d'une attaque. Lui-même a été gravement blessé au bras. Il en garde les séquelles.
Dans ce camp, de nombreuses personnes sont affectées. Beaucoup sont blessées. Beaucoup ont été tués. Leurs proches ont été tués. Combien d'entre nous, rassemblés ici, ont fui à cause des attaques? Levez la main si vos enfants ne peuvent pas aller à l'école.
Lorsqu'on a faim, on perd confiance en Dieu. Lorsqu'on est malade, on perd confiance en Dieu. Leur esprit a été découragé de Dieu.
Personne n'en parle. Nous restons dans l'ombre, comme si nous avions été rejetés. Posez-vous la question, si votre frère était à terre, que feriez-vous? Si vous voyez votre mère en difficulté, que feriez-vous? Vous trouveriez ça terrible. Alors imaginez ce que ressent votre frère qui vit là-bas. En tant que pasteur dans le camp, moi aussi je suis déplacé. Je n'ai rien à leur donner. Je ne peux que prier et partager la parole de Dieu avec eux. Jusqu'à présent, nos yeux sont tournés vers lui. Jusqu'à présent, notre espoir repose sur lui. Nous plaçons notre confiance en lui.
Dans la lettre aux Romains, l'apôtre Paul écrit à des chrétiens vivant dans le feu de la persécution. Il leur dit « Qui nous séparera de l'amour de Christ ? Serait-ce les épreuves, les angoisses, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou les armes ? Car il est écrit « C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est cette promesse de notre Dieu qui anime nos frères et sœurs, alors qu'ils sont au cœur de la fournaise.
Nous croyons qu'il est grand. Il agira. Il fera plus que ce que nous imaginons.
J'aimerais vous rappeler ce matin que la persécution n'est pas seulement présente en Afrique subsaharienne, mais elle est présente également en Chine, présente au Bangladesh, au Pakistan, en Inde et dans beaucoup d'autres pays. Et c'est quelque chose qui fait mal. Vous l'avez entendu, lorsqu'on a faim, on doute de Dieu. Lorsqu'on a froid, on perd courage en Dieu. J'aimerais vous demander ce matin si on peut se lever tous ensemble. Juste observer quelques secondes de silence et on va prier pour l'Église persécutée dans le monde. Seigneur Dieu, ce matin, nos cœurs inclinés devant toi, nous venons t'apporter l'Église partout dans le monde qui est persécutée. Seigneur, tu vois la souffrance des frères et sœurs dans la foi. Tu vois leur découragement. Tu vois combien ils sont accablés. Seigneur, nous prions ce matin que tu puisses étendre ta main, que tu puisses leur envoyer ta grâce, les soutenir, les relever, les fortifier dans la situation dans laquelle ils se trouvent. Seigneur, ils ont besoin de toi. Ils ont besoin de garder la foi en toi, d'espérer contre toute espérance, Seigneur. Et il n'y a que toi seul qui es capable de donner cette force pour résister, pour tenir jusqu'au bout. Et Seigneur, nous prions pour l'Église en Afrique subsaharienne. Nous prions pour l'Église au Bangladesh, en Chine, en Corée, partout dans le monde où les chrétiens n'ont pas le privilège de pouvoir te louer comme ils le voudraient. Seigneur, manifeste ta grâce ce matin. Manifeste ta miséricorde ce matin. Tu vois ceux-là qui ont perdu leurs enfants, leurs parents et qui sont complètement déboussolés, complètement ébranlés et qui songent même à renoncer à la foi. Seigneur, relève quelqu'un ce matin. Encourage quelqu'un ce matin à garder ses yeux fixés sur toi. Et Seigneur, que tu pourvoies aux besoins de ces personnes qui sont démunies, qui souffrent, Seigneur, et qui s'attendent à toi. Seigneur, merci. Merci de faire de nous également une église qui soutient, une église qui prie, une église qui se soucie de ceux qui sont démunis, de ceux qui sont dans la souffrance et qui se lèvent pour la justice. Merci Seigneur de glorifier ton nom dans chacune de ces situations et de permettre à toutes ces personnes de pouvoir le dire haut et fort, rien ne nous séparera de toi, rien ne nous séparera de ton amour Seigneur. Merci pour ton œuvre dans les cœurs, dans les nations. Merci Papa, sois béni. Amen. Amen. Eh bien, le titre de mon message ce matin va s'intituler « Rien ne nous séparera ». Aujourd'hui, j'aimerais regarder avec vous la persécution qu'on peut subir à cause de la foi que nous avons en Dieu et la souffrance qui en découle. Et évidemment, l'attitude que nous devons avoir en tant que chrétiens face à la souffrance en général. La souffrance, elle est commune à chacun de nous. Qu'on soit chrétien ou pas, on fait face à un moment donné dans nos vies à la souffrance. La souffrance de perdre un être cher. La souffrance d'être malade et de ne pas pouvoir goûter à la guérison. La souffrance de ne pas pouvoir manger à sa faim, d'avoir un travail qui nous permet de nourrir nos familles. On souffre, qu'on soit chrétien ou pas, la souffrance nous est commune. Mais alors que nous sommes chrétiens, nous avons une ancre solide sur laquelle nous pouvons nous bâtir, sur laquelle nous pouvons aller chercher la force qui nous permet de résister jusqu'au bout. Et ce matin, je voudrais vous rappeler que la persécution n'est pas quelque chose de nouveau. Elle était déjà présente au temps de Jésus et même après sa mort, elle est demeurée jusqu'à ce jour sous différentes formes. D'ailleurs, Jésus lui-même ne le cachera pas à ses disciples lorsqu'il était avec eux. Dans Jean 15, versets 18 à 20, on peut lire ceci. « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. » Très clairement, Jésus disait à ses disciples ici, « Et à nous aujourd'hui que nous sommes dans le monde, mais nous n'appartenons pas à ce monde. Nous avons été choisis du milieu de ce monde pour être des lumières qui éclairent dans les ténèbres et des sels qui donnent de la saveur à ce monde qui peut parfois être amer et déprimant. Et parce que nous avons ces caractéristiques et à l'image de notre maître Jésus, nous ne pouvons tout simplement pas fermer les yeux sur la corruption, l'injustice et toutes les œuvres infructueuses des ténèbres autour de nous. Alors, nous nous devons de les condamner. Nous nous devons de les dénoncer. Nous prenons position sur toutes sortes de sujets délicats de notre société. Certains sujets divisent même les chrétiens entre eux. On parle aujourd'hui de l'identité de genre, l'aide médicale à mourir, le droit à l'avortement et j'en passe. Et c'est des sujets qui nous divisent. Il arrive que les convictions et les positions basées sur ce que la Bible enseigne amènent des chrétiens à être haïs, menacés et persécutés jusqu'à perdre leur vie. Que savons-nous donc de la persécution dans la Bible? Le dictionnaire Le Robert définit le verbe persécuter par le fait de tourmenter sans relâche une personne ou une communauté par des traitements injustes et cruels. Dans l'Ancien Testament, et plus précisément dans le livre de la Genèse, La persécution apparaît avec le meurtre d'Abel par son frère Caïn et par la suite avec le mauvais traitement infligé à Joseph par ses frères. Les deux ont vécu la persécution. La persécution en tant que phénomène social a paru réellement avec le peuple d'Israël lorsqu'il était en esclavage en Égypte. Le peuple fut accablé par des travaux pénibles. Plus tard en Palestine, dès que le peuple se mit à abandonner son Dieu et que les prophètes se levèrent pour lutter contre l'apostasie, la persécution fondit sur eux. Cette persécution était exercée autant par les dirigeants que par le peuple. Les prophètes Élie, Jérémie et bien d'autres encore endurèrent la persécution et demandèrent à Dieu le juste châtiment de ceux qui les maltraitaient et qui désobéissaient à Dieu. Et dans le Nouveau Testament, on voit clairement que le procès de Jésus et sa mort préfigurent la persécution qui attendra les chrétiens. Les Juifs l'ont persécuté à cause de son enseignement et ont finalement déposé plainte contre lui devant le Sanhédrin et les autorités romaines. Peu de temps après la mort de Jésus, les apôtres eurent à goûter également à la persécution. Ils l'ont subi également. On voit dans chapitre 6 et 7, l'histoire d'Étienne, reconnu comme le premier martyr chrétien de la persécution juive. Son meurtre donna le signe d'une persécution générale contre tous les chrétiens de Jérusalem. On peut le lire dans Actes 6, versets 7 à 10. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. Étienne, plein de grâce et de puissance, faisait des prodiges et des grands miracles parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des affranchis, de celle des Cyrénéens et de celle des Alexandrins, avec des Juifs de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Étienne était un homme rempli d'esprit, un homme rempli de sagesse, un homme qui aimait Dieu profondément et qui pouvait partager la parole de Dieu avec passion. Et il a été persécuté à cause de cette passion qu'il avait pour Dieu. Alors que le nombre des disciples augmentait, il devenait clair une menace pour le monde des ténèbres. Pour ralentir cette croissance et même les obliger à se taire, à ne pas continuer à propager l'évangile, les opposants à l'évangile vont user de toutes sortes de menaces, d'intimidations, menant même à la persécution. Et toujours à propos d'Étienne, nous lisons ceci dans Actes 6, verset 13. Ils produisirent de faux témoins qui dirent « Cet homme ne cesse de proférer des paroles contre le lieu saint et contre la loi. » Et plus tard, dans le chapitre 7, au verset 58 à 59, on lit ceci. « Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements au pied d'un jeune homme nommé Saul. Et il lapidait Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Et paradoxalement, celui devant lequel on a déposé ses vêtements va vivre plus tard également la persécution après avoir accepté Jésus comme son sauveur. Et le traitement infligé à Étienne, en raison de sa foi, était tout simplement injuste et cruel. Étienne dérangeait les opposants de l'Évangile par la lumière qu'il dégageait. Ne soyons donc pas surpris aujourd'hui lorsque nous voyons ou lorsque nous faisons face à la persécution. La persécution fait tout simplement partie des afflictions que le disciple de Jésus-Christ peut endurer. Elle est directement reliée à la souffrance et cette souffrance peut parfois conduire au découragement et au doute. Le doute quant à l'amour de Dieu, s'il nous aime, s'il nous a tant aimés, s'il a donné son Fils Jésus pour nous, qui a souffert, qui est mort à la croix, pourquoi nous laisse-t-il souffrir? Pourquoi il ne lève pas la main pour nous sauver? Et la persécution a amené beaucoup de chrétiens à se détourner de la foi, à chercher leur secours ailleurs. Et parlant de découragement dans la tribulation, Paul dira ceci dans 2 Corinthiens 1, versets 8 à 9. Nous ne voulons pas en effet vous laisser ignorer, frères, au sujet de la tribulation qui nous est survenue en Asie, que nous avons été excessivement accablés au-delà de nos forces, de telle sorte que nous désespérions même de conserver la vie. Et nous regardions comme certain notre arrêt de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais de la placer en Dieu qui ressuscite les morts. Waouh! Pour avoir expérimenté lui-même la souffrance, la persécution. Cette souffrance qui découle de la persécution, Paul reconnaît ici toute l'humilité qu'il est passé, en toute humilité qu'il est passé par le désespoir, il est passé par le découragement. Pour lui et ses compagnons, la mort était plus que certaine et toute leur confiance ne pouvait reposer que sur Dieu qui est capable de ressusciter les morts. Paul et ses compagnons n'attendaient que la mort. Fort de ces différentes expériences, Paul va exhorter les chrétiens que nous sommes et nous rappeler que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien ne doit nous séparer de l'amour de Dieu. Romains 8, versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je dois entendre un amen là-dessus, s'il vous plaît. Amen. Rien ne nous séparera de l'amour de Christ. Paul considère l'espérance en Dieu, le message de l'évangile que nous avons reçu et qui a transformé nos vies comme un précieux trésor. Et ce trésor est porté dans des vases que nous sommes. On peut le lire dans 2 Corinthiens 4, versets 7 à 10. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Nous sommes pressés de toute manière, mais non réduits à l'extrémité, dans la détresse, mais non dans le désespoir, persécutés, mais non abandonnés, abattus, mais non perdus, portant toujours avec nous dans notre corps la mort de Jésus, afin que la vie de Jésus soit aussi manifestée dans notre corps. Amen. J'aimerais nous rappeler ce matin que Dieu est présent à côté de celui qui souffre pour lui. Et nous portons l'évangile dans des vases de terre que nous sommes. Et ces vases de terre sont fragiles, tellement fragiles, sensibles à la pression que le monde peut nous apporter. Nous sommes délicats en tant qu'humains. Mais en s'appuyant sur Dieu, Paul a la conviction et l'assurance que nous ne sommes pas abandonnés. Est-ce que nous avons ce matin cette assurance que nous ne sommes pas abandonnés? Nous pouvons traverser des temps difficiles. Oui, j'en connais. Et je suis déjà passé par là. Et certainement, je vais passer par d'autres souffrances plus tard. Je ne me le souhaite pas, mais ça fait partie de la vie d'un chrétien. Et à l'endroit de son protégé, Timothée, il était important pour Paul de lui rappeler qu'il y a une persécution, qu'il y a une persécution faisant partie intégrante de la vie de tous ceux qui veulent vivre pour Christ. Surtout dans un monde qui appelle de plus en plus le mal bien et le bien mal. À plus forte raison, nous devons tenir ferme. Nous devons nous accrocher à Dieu. Paul va dire ceci à Timothée dans 2 Timothée 3, versets 10 à 12. Pour toi, Timothée, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelles souffrances n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelles persécutions n'ai-je pas supportées? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Je m'excuse de vous le dire. Hein. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ vont être persécutés. Que personne ne vienne donc nous tromper, que la vie chrétienne est un chemin facile sur lequel nous ne rencontrerons jamais de l'opposition. Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ sont des potentiels proies de la persécution. Nous devons le savoir, nous devons en être conscients afin de nous tenir fermes et debout. Alors, il serait tout à fait légitime pour nous de demander à Dieu qu'avons-nous à gagner en te suivant. Si ce que tu nous réserves, ce que tu nous dis à l'avance, c'est que nous allons vivre la persécution, qu'avons-nous à gagner en te suivant? Est-ce que tu nous proposes quelque chose de meilleur? Est-ce qu'il y a une joie à découvrir, même lorsqu'on est dans la souffrance? Y a-t-il une joie à souffrir pour Christ? Matthieu 5, versets 11 à 12 va nous dire ceci. Des paroles qui sont difficiles à accepter. Hein? Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Pas à cause de vos propres erreurs, pas à cause de votre manque de sagesse, mais à cause de Jésus, à cause de l'Évangile. Et réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Jésus loue dans ce texte ceux qui ont persévéré avec lui malgré la persécution et la souffrance. Est-ce que cela voudrait dire que nous devons rechercher la persécution et la souffrance à tout prix? Non, 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 non. Loin de là. Mais lorsque la persécution nous atteint, n'oublions pas que même si la délivrance, le secours ne nous est pas donné ici-bas, soyons certains qu'une récompense nous attend dans les cieux. Et pour en être bénéficiaire de ce secours, de ce salut, de ce réconfort de Dieu, il faut faire preuve de persévérance, de ténacité face au découragement et à l'opposition sous toutes ses formes. Si nous regardons à la vie de ceux qui ont vécu la persécution avant nous, que ce soit les apôtres, les disciples ou même les chrétiens en Afrique et en Asie aujourd'hui, leur arme de combat a toujours été la prière. L'arme de combat contre la persécution a toujours été la prière, l'adoration devant Dieu. Amen. Il me semble que vous n'êtes pas convaincus de ça. Essayez-le, vous allez voir. Ça produit du fruit. Ces chrétiens bénissent les chrétiens qui sont persécutés. On l'a vu dans la vidéo. Ils bénissent ceux qui les persécutent afin de vaincre le mal par le bien. Cependant, ils peuvent aussi fuir la persécution en allant dans un autre endroit, en changeant de ville, en changeant de pays, en changeant même d'emploi. Pourquoi pas? Ils veulent fuir la persécution et c'est tout à fait légitime. Et la parole de Dieu nous dit dans Matthieu 10, verset 23, « Quand on vous persécutera dans une ville, fuyez dans une autre, je vous le dis en vérité, vous n'aurez pas achevé de parcourir les villes d'Israël que le Fils de l'homme sera venu. » Amen. Tout récemment, par hasard, j'ai rencontré une famille ici dans l'église qui vient de l'Algérie. Et connaissant un peu l'histoire de la persécution de l'église en Algérie, et pour avoir moi-même participé à un mouvement mondial de prière pour l'église en Algérie, surtout dans une commune appelée Tizi Ouzou, je leur ai demandé s'ils connaissaient cette église. Et à ma grande surprise, ils m'ont répondu, oui, c'était notre église. J'en revenais pas. C'était notre église, Tizi Ouzou. Et cette famille a dû quitter l'Algérie à cause de la persécution. On entend parfois parler de la persécution, on pense que c'est quelque chose de très lointain. Mais il y a des gens qui se sont déplacés, qui ont quitté le confort de leur pays pour s'installer ici à cause de la persécution. Et l'église de Tizi Ouzou a été fermée malgré la résistance de son pasteur et de ses fidèles. Certains ont même été emprisonnés. J'aurais voulu vous les présenter ce matin, mais à cause de la crainte de toutes sortes de représailles, on a jugé bon de ne pas le faire ce matin. J'ai quand même eu leur autorisation pour vous partager cela. Et le père me disait qu'il subissait une telle persécution psychologique qu'il était devenu impossible pour lui d'envisager un meilleur avenir pour lui, pour sa femme et pour ses enfants. On parle ici de rejet de la famille. Leur propre famille, qui appartient à une autre religion, les ont littéralement rejetés. Ils ont eu des menaces de mort, des pressions sur le lieu de travail. Ils se sont retrouvés complètement isolés, isolés, sans pouvoir compter sur la famille, sans pouvoir compter sur les membres de la communauté, sans pouvoir compter sur les collègues au travail. Ils vivaient constamment avec la peur dans le ventre. Et il y a une porte qui s'est ouverte pour eux ici au Canada. Et sans hésitation, ils ont fait le saut. Aujourd'hui, Dieu merci, ils sont parmi nous. Ils louent le Seigneur en toute liberté. Mais ils n'ont pas pour autant oublié leurs frères et sœurs restés en Algérie, à Tizi Ouzou. Ils continuent de les soutenir comme ils peuvent, que ce soit par la prière, que ce soit par différents dons, différentes actions qu'ils peuvent faire pour que l'Église puisse continuer à rester debout malgré la persécution. J'ai même appris récemment, je lisais également sur le site de Portes Ouvertes, l'organisme qui a fait la vidéo, que des églises, cette église, beaucoup de ses membres ont décidé de faire l'église dans les maisons, en cachette. Ils se retrouvaient à 2, 3, 4, 5 et priaient. Continuent de prier pour les autorités de ce pays afin que Dieu puisse toucher leur cœur et leur permettre de pouvoir continuer à louer leur Dieu. Souvenons-nous également de ce frère, de sa famille et de tous les frères et sœurs à Tizi Ouzou qui ne peuvent plus louer Dieu comme nous le faisons ce matin. Gardons-les dans nos prières. Et toujours face à la persécution, Paul dira ceci dans 2 Corinthiens 12, verset 10. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, les insultes, la détresse, les persécutions et les angoisses que j'endure pour Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. Amen. Quand on entend Paul, on a comme l'impression que c'est un maso, lui. Je trouve ainsi ma joie dans la faiblesse, dans les insultes, dans la détresse, dans les persécutions, dans les angoisses que j'endure pour Christ. Car c'est lorsque je suis faible que je suis réellement fort. J'ai trouvé ceci. Le célèbre théologien réformateur Jean Calvin a commenté ce passage en disant que si quelqu'un croit qu'ici Paul parle non de son manque de force, mais de ses diverses afflictions, Calvin lui répond que toutes ces souffrances sont des exercices par lesquels Dieu nous manifeste notre faiblesse. Car si le Seigneur n'avait pas formé Paul par tant d'épreuves et de souffrances, jamais ce dernier n'aurait eu un sentiment si vif de son infirmité. Ainsi, il n'a point seulement égard à ses souffrances, mais aussi aux effets que la souffrance produit. Quels sont ces effets? La connaissance de notre faiblesse, la défiance de nous-mêmes et l'humilité que ça produit en nous. Même le grand apôtre Paul a appris au travers de la souffrance à se dépouiller de lui-même. Certes, il n'a pas recherché la souffrance, mais lorsqu'elle s'est présentée à lui, il n'a eu d'autre choix que de se remettre à Dieu en lui faisant pleinement confiance. Lorsque nous parlons de persécution ou de toutes sortes d'épreuves et de souffrances par lesquelles nous pouvons passer dans notre marche avec Dieu, inévitablement, nous soupirons tous à une délivrance. Nous soupirons tous à une victoire, à une fin glorieuse. Ma question ce matin à chacun de nous, quelle perception avons-nous réellement d'une fin glorieuse dans la souffrance? Quelle perception avons-nous réellement de ça? Le chrétien sort-il toujours vainqueur de toutes ses afflictions? Est-ce que vous sortez toujours vainqueur de vos afflictions, de vos épreuves, de vos douleurs, de vos deuils? Amen. Je suis content de l'entendre. Nous sommes appelés à être vainqueurs en toutes circonstances. Ce n'est pas toujours évident, mais nous sommes appelés à l'être. Et parlant des héros de la foi, des modèles de persévérance et de courage à toute épreuve, lisons ce que l'auteur de la lettre aux Hébreux nous dit. Un merveilleux passage. Hébreux 11, versets 32 à 40. Et que dirais-je encore? Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel et des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leurs maladies, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées étrangères. Des femmes recouvraient leur mort par la résurrection. D'autres furent livrées aux tourments et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. D'autres subirent les moqueries et le fouet, les chaînes et la prison. Ils furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée. Ils allèrent çà et là vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés, maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Waouh, quel passage! Nous voyons ici deux catégories de héros. Catégorie numéro 1. Par la foi, ils vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, guérirent de leurs maladies, vainqueurs à toute épreuve, glorieux. Catégorie numéro 2. Ils furent livrés au tourment. C'est des héros, hein, on parle des héros ici. Ils furent livrés au tourment et n'acceptèrent point de délivrance afin d'obtenir une meilleure résurrection. Ils furent lapidés, sciés, torturés et moururent tués par l'épée. À main levée ce matin, vous choisissez quelle catégorie? Numéro 1 ou numéro 2? Je vais vous épargner de ça. On va choisir numéro 1. Numéro 1? Oui? Vous êtes sûr? Ou 2? Vous ne voulez pas être scié en deux, hein? Surtout comme vous, catégorie numéro 1, 100%. Qui ne veut pas obtenir toutes les promesses de Dieu pour sa vie? Qui est celui-là qui ne veut pas l'obtenir? On veut que tout nous réussisse dans la vie. Lorsque nous prions pour un sujet, on veut que la réponse de Dieu soit rapide et surtout à la hauteur de ce que nous lui demandons, à la hauteur de nos attentes. Car c'est ainsi qu'on pourra nous reconnaître comme possédant une grande foi en Dieu. Et on peut s'enorgueillir. Nous sommes des hommes et des femmes de foi. On prie et des choses arrivent. On prie pour des malades et ils sont guéris. On a vécu quelque chose cette semaine. Je ne pensais pas le dire, mais on a accompagné un jeune garçon de 11 ans pendant sa maladie, sa récidive de cancer. Et j'ai vu des parents prier toutes les prières de leur corps. J'ai vu un jeune garçon avec une foi sans pareil. Je le reconnais, j'ai pas la foi de ce garçon. Je veux rendre hommage ce matin à Ludovic, un jeune homme résilient, courageux, persévérant, jusqu'au bout. Dans la douleur, il pouvait dire « Ne priez plus pour moi, mais priez pour mes parents. » Incroyable. Et je l'ai vu tenir jusqu'au bout, dans la souffrance. Il m'a donné une belle leçon de vie. Je me rappelle, j'étais allé le voir à l'hôpital. Il avait la seringue dans les veines, un moniteur branché. Mais il était de bonne humeur. Et sa foi était authentique. Autant il pouvait être de bonne humeur, autant il pouvait poser des questions légitimes. Il pouvait demander, quand est-ce que je vais retourner à l'école? Quand est-ce que je vais revoir mes amis? Quand est-ce que je vais être libéré de cette souffrance? Mais jamais je n'ai vu ce garçon être en colère contre Dieu. Mais il était en colère contre la maladie, mais pas contre son Dieu. Et pour moi, ce garçon est un héros de la foi. Et comme ce passage nous le dit, dans le panthéon de la foi, on retrouve des hommes et des femmes qui se sont accrochés aux promesses de Dieu jusqu'au bout, mais qui, contrairement à certains, ont subi des moqueries, des tortures, la prison. Certains ont été sciés en deux, persécutés même à l'extrême. Mais la Bible les appelle des héros de la foi. Et à la fin, on apprend que tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu avait en vue quelque chose de meilleur pour eux. Mais ils sont morts. Qu'est-ce qui peut leur arriver encore de meilleur après la mort? Paul nous donne la réponse ici dans 1 Corinthiens 15, verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. C'est notre plus gros problème en tant que chrétiens. Nous espérons trop souvent seulement ici-bas. Nous devons nous rappeler constamment que nous ne sommes que des pèlerins, des voyageurs sur cette terre. Nous avons une patrie céleste qui nous attend. Et si ce que nous espérons, nous ne l'avons pas reçu ici-bas, croyons que cela nous sera donné lorsque nous serons dans les cieux. Et pour être dans les cieux, il faut faire quoi? Il faut persévérer. Il faut tenir ferme. Il faut rester debout. Il faut croire en l'amour de Dieu manifesté en Christ pour chacun de nous. Je vais inviter les musiciens à me rejoindre. J'aime beaucoup cette citation de Pierre Corneille dans le Cid, un texte que j'ai étudié quand j'étais au secondaire. Peut-être certains d'entre vous le connaissent. Corneille va dire « À vaincre sans périr, on triomphe sans gloire. » Amen. Bien-aimés, nous ne pouvons pas triompher de nos épreuves sans rencontrer de difficultés ou de résistance. Lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ, l'épreuve à laquelle nous faisons face produit la patience en nous. Et la patience en nous produit la persévérance et la résilience. Et cette persévérance dans l'épreuve produit l'espérance. Une espérance qui va au-delà de cette vie ici-bas. Nous ne sommes que des voyageurs sur cette terre. Il y a une cité céleste qui nous attend. Et notre soupir à tous devrait être d'entrer dans cette cité céleste. Ne l'oublions jamais. Ne nous laissons pas voler cette espérance en Dieu. La souffrance viendra. Les difficultés viendront. Les deuils viendront. Mais n'oublions pas qu'il y a un Dieu qui se tient à nos côtés. Un Dieu qui combat pour nous. Un Dieu qui nous tient par la main et qui marche avec nous. Jésus, celui qui nous a devancés dans cette cité céleste de Dieu et qui nous prépare une place, nous rappelle ceci. Dans Apocalypse 2, versets 26 à 29, « À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes enseignements, je donnerai autorité sur les nations. Et il pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argile. Ainsi que moi-même, j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Que celui qui a des oreilles entende ce que dit l'Esprit aux églises. » Amen. Je termine avec ceci. En ce dimanche de l'Église persécutée, nous voulons non seulement prier pour cette Église, prier pour les chrétiens persécutés, mais aussi nous voulons les soutenir de façon encore plus concrète. Nous voulons les soutenir financièrement. Edmund Burke disait que la seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. La seule chose qui permet au mal de triompher est l'inaction des hommes de bien. Hommes et femmes de bien que nous sommes ce matin, nous pouvons donc prendre action en priant pour l'Église persécutée. Et si notre portefeuille nous le permet, nous pouvons les bénir également financièrement. Et je voulais juste vous rappeler que tous les dons qui vont être recueillis ce matin seront reversés en totalité à l'organisme Portes Ouvertes Canada. Et l'argent va servir à soutenir les victimes de violences au moyen de secours d'urgence, de développement communautaire, d'éducation et de soins médicaux pour ces gens qui ont besoin. Ces pasteurs qui sont démunis, qui n'ont plus de moyens financiers, de moyens, de ressources pour pouvoir continuer le combat, la marche dans la foi. On veut les soutenir dans la prière et par nos moyens financiers. Et pendant que les musiciens nous conduisent dans un... Peut-être vous allez jouer tranquillement, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez prévu, mais je vais demander au préposé à l'offrande de s'approcher pour faire passer les plateaux. Et si vous voulez utiliser une enveloppe, prenez juste soin de marquer là-dessus « Église persécutée ». Et si vous n'avez rien prévu, vous n'avez pas de l'argent liquide sur vous, à la fin, vous pouvez vous diriger également dans le hall d'entrée et vous pouvez payer avec le terminal de Square. On veut également prendre le temps ce matin pour vous dire merci pour tous vos dons, pour tout ce que vous faites pour l'Église. C'est vous qui permettez à l'Église de continuer la mission qui nous a été assignée. Chacun de nous, nous participons à cette mission. Nous donnons nos dîmes, nous donnons nos offrandes. Et vraiment, c'est un privilège pour nous de pouvoir donner ce que Dieu nous a donné en retour. Seigneur, je veux te remercier ce matin pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour le privilège, le grand privilège que nous avons ce matin de contribuer à ta mission, de contribuer à ton œuvre, de contribuer à faire avancer l'Évangile partout dans le monde et surtout dans ces endroits où l'Église est persécutée, partout dans ces endroits où on veut fermer la bouche de tes enfants, où on veut les intimider, on veut les empêcher de pouvoir vivre pleinement la foi. Seigneur, on te remercie et je veux te remercier, Seigneur, pour toute personne ce matin qui est capable de donner, qui est capable de prier pour cette Église. Seigneur, merci de les bénir en retour. Merci de les combler également, Seigneur, de tes grâces. Merci, Seigneur, de nous permettre de jouir, Seigneur, de ta présence et d'être vraiment des instruments entre tes mains que tu utilises pour encourager, pour exhorter, pour soutenir et pour fortifier ceux qui sont abattus, ceux qui sont accablés, ceux qui traversent des temps de souffrance, des temps de pression. Seigneur, merci de nous rendre sensibles à cette douleur, à cette injustice en Afrique, en Asie et partout dans ces pays où les chrétiens sont persécutés. Seigneur, nous prions que ces dons qui vont être amassés puissent servir vraiment à cette Église persécutée. Merci de donner ta sagesse et ton discernement à toutes ces personnes qui ont la charge d'administrer ces dons. Merci de multiplier ces dons et de permettre que ton église ne manque de rien. Que dans ta maison, les ressources soient toujours pourvues. Et là, merci tendre Père. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Sois élevé et sois honoré au milieu de nous et partout dans le monde où l'église est persécutée. Amen.